Vous écoutez On lit pour vous. Jusqu'où la responsabilité des géants du web s'étend-elle face à la radicalisation incel? Un texte de Noémie Bokouma, paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir. L'idéologie incel et les disciples qu'elle attire ont su s'immiscer au-delà des forums 4chan et Reddit et se sont répandus partout sur les plateformes de réseaux sociaux. Voulant attirer le plus d'utilisateurs possible, ces mêmes plateformes auraient peu de motivation à mettre en place des protections contre la radicalisation à l'idéologie incel, remarquent des experts consultés par Le Devoir. L'auteur de la fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges a laissé derrière lui un manifeste où l'idéologie incel, populaire sur les réseaux sociaux en raison de son contenu extrémiste, constitue le fil conducteur de son texte. Esli Chan, doctorante au département de sciences politiques à l'Université McGill et chercheuse principale pour l'Observatoire de l'écosystème médiatique, décrit un processus graduel qui amène un internaute à adhérer au contenu de l'idéologie. Elle explique que plusieurs contenus radicaux ou extrémistes sont d'abord créés sur des plateformes comme YouTube et TikTok, avec l'objectif de diriger des utilisateurs vers des espaces et des forums consacrés à la communauté incel. Si les plateformes de réseaux sociaux s'intéressent à la prévention de la radicalisation extrémiste et à la modération de ce type de contenu, c'est souvent après que le mal soit survenu, confirme pour sa part Pierre Trudel, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chroniqueur au Devoir. C'est avant tout sous la pression de l'opinion publique que les plateformes de réseaux sociaux avaient choisi d'intensifier leurs pratiques de modération, rappelle-t-il, se référant à la réaction de la compagnie Meta face aux attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. En 2019, à la suite de l'échec de Meta pour bloquer la diffusion en direct de cette tragédie, Meta, Google, Twitter et d'autres géants du web s'étaient alors engagés à renforcer leurs efforts pour éviter que leurs plateformes soient utilisées pour propager de la haine, organiser des groupes extrémistes et diffuser des attaques. Avec les lois actuelles au Canada, le professeur de droit note que les plateformes ne peuvent être tenues légalement responsables du processus de radicalisation extrémiste de leurs utilisateurs, à moins qu'il soit démontré qu'elles avaient une pleine connaissance des propos délictueux, comme des menaces de mort, des menaces sexistes ou des menaces racistes. Les algorithmes au cœur des débats. Sur les réseaux sociaux, un algorithme, une série d'instructions visant à résoudre un problème, peut être conçu pour plusieurs raisons. Retenir l'attention d'un utilisateur, garantir son retour sur une plateforme ou perfectionner la recommandation de contenu qui lui est destiné. Alors que ces plateformes ne sont pas juridiquement contraintes, la possibilité que leurs algorithmes en viennent, en quelque sorte à amplifier, et même à encourager des comportements extrêmes ou des comportements radicaux, est alarmante, indique M. Trudel. Esli Chan ajoute que le manque de transparence sur le fonctionnement des algorithmes sur les réseaux sociaux empêche à la fois les chercheurs et le public de savoir ce qui est mis en avant en ligne, quel type de contenu et pourquoi. Or, cette incertitude incite les utilisateurs à s'exprimer de manière excessivement choquante pour aspirer à la viralité, croit-elle. La doctorante observe alors un cycle de renforcement provoqué sur les plateformes populaires. Plus le contenu est radical, plus il a le potentiel de devenir viral et lucratif. Une viralité qui génère de l'argent pour le créateur, mais aussi un profit pour les plateformes. Des mesures contre la haine. Selon M. Trudel, le projet de loi C-34 serait l'exemple d'une loi qui prévoit précisément d'obliger les plateformes à mieux contrôler les contenus qui incitent à la haine, garantissant une approche plus proactive de la part des plateformes de réseaux sociaux. Toutefois, dans un contexte où ce projet de loi n'a pas encore été adopté, il faudrait enseigner aux jeunes les mécanismes d'amplification et de diffusion algorithmique du contenu pour qu'ils puissent comprendre les effets des dérives de la haine en ligne, souligne Cara Brisson-Boivin, directrice à la recherche chez Abilo Media. En raison de ces mécanismes, le danger est que les jeunes puissent avoir l'impression que certaines choses sont acceptables ou qu'elles représentent l'opinion majoritaire. Un des facteurs importants dans la prévention et l'intervention pour combattre la haine en ligne, selon elle, est de les éduquer à bâtir leur empathie. On peut ensuite leur faire comprendre que leurs actions, même en ligne, ont un impact et des répercussions difficiles à appréhender, puis les appuyer dans le développement d'un esprit critique afin de résister collectivement à la haine en ligne, explique-t-elle. C'était « Jusqu'où la responsabilité des géants du web s'étend-elle face à la radicalisation incel ?» un texte de Noémie Bokouma, paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir.
Mike C. Vienno, Être un passeur. Propos recueillis par Alexandre Mignot, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Chapeauté par l'Association des libraires du Québec, le prix d'excellence, qui souligne le travail exceptionnel des libraires, a été remis cette année à Mike C. Vienno de la librairie Médiapole à Montréal. Enthousiaste de transmettre sa passion, le lauréat nous en dévoile davantage sur les coulisses de son métier et sur ses lectures. Depuis quand êtes-vous libraire?
Je suis entré en librairie il y a près de 30 ans. J'ai travaillé dans 7 librairies où j'ai été libraire, acheteur, gestionnaire, chef d'équipe, responsable des événements, animateur de rencontres et d'entrevues. J'ai fait un saut en enseignement comme chargé de cours entre deux moments en librairie. Libraire, chargé de cours et retour en librairie.
Pourquoi avez-vous choisi le métier de libraire?
Parce que c'est ce que je sais faire de mieux.
Je me sens dans mon élément, dans mon espace, dans mon aisance.
Je ne sais pas tant si j'ai vraiment choisi le métier ou si c'est lui qui m'a adopté, désigné et gardé à lui. Ce que je sais, c'est que quand je suis entrée à 24 ans dans ma première librairie en tant que libraire, je rêvais depuis longtemps de ce métier. Il faut croire que le rêve était tenace.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail?
Le lien avec les lecteurs et lectrices, les échanges, le fait de pouvoir prolonger mon métier d'enseignant dans les conversations et conseils de lecture. Apprendre des clients et clientes, autant que je peux les diriger et leur faire découvrir des nouveautés. Aussi, être entouré de livres, les voir arriver, les placer, les toucher. Découvrir toutes les nouveautés à venir. Retrouver dans les boîtes les titres commandés 2-3 semaines avant. Les placer en librairie en sachant que telle pile saura charmer un lectorat, en espérant qu'une autre pourra capter l'intérêt.
Que représente pour vous le fait de recevoir le prix d'excellence?
C'est une reconnaissance que je trouve très humblement méritée. Je m'explique. On travaille beaucoup, avec passion et sans compter les heures souvent, à faire de multiples tâches en librairie. On ne s'en plaint pas. Le contexte de travail est super. Le lieu est agréable. Comme on dit, il y a pire. Mais le prix d'excellence, c'est nous dire que le métier existe, qu'il est différent, qu'il est distinct. Le prix, ce n'est pas une histoire de vanité ou d'autocentrisme, mais c'est un message qui me rappelle que je sais ce que je fais, qu'on l'apprécie et surtout qu'on le reconnaît, et que je suis un libraire d'exception, et que ce titre entraîne les autres à apprécier le métier et à faire pareil. C'est comme une validation de guide, de passeur, de mentor. Racontez-nous un beau souvenir de votre vie de libraire. Il y en a beaucoup. C'est souvent des souvenirs simples, des moments. Oui, il y a cette anecdote où j'ai servi Anne Hébert, ou cette cliente qui voulait apprendre à lire. Mais je me souviens d'une cliente qui venait souvent, les vendredis, chercher des livres pour son fils. Elle arrivait, un peu découragée, car fiston, presque 10 ans, lisait beaucoup, trop même. Il dévorait les livres, ce qui entraînait 2 situations. Il était toujours en manque de lecture en classe, car il lisait trop vite, et cela coûtait cher à la mère. Pour les 2 situations, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais je pouvais la guider, la diriger dans la sélection de livres, qui débordait de livres jeunesse afin de nourrir son fils affamé de lecture. C'était de belles rencontres, car elle s'en remettait à son libraire. Un climat d'échange et de confiance s'était établi, et cela me permettait de bien le connaître et de pouvoir proposer autre chose, de pousser l'effort de lecture, de varier les choix. Je la voyais revenir de vendredi en vendredi, moins essoufflée et plus rassurée de trouver une pile de livres qui allait survivre à la semaine de lecture de son enfant. Selon vous, en quoi la librairie est-elle un lieu essentiel à une société, à un quartier, et dans le cas de Médiapôle en particulier? La librairie, c'est comme un temple de la connaissance, du savoir, en communion avec les écoles, les bibliothèques et les espaces culturels. C'est un lieu où on achète des livres, donc où on se procure du savoir, du divertissement, du plaisir. Mais c'est aussi un espace de discussion, de rencontre et de partage. Combien de fois des gens entrent sans rien acheter, mais pour parler d'un livre conseillé la semaine dernière ou pour annoncer un livre à venir, sachant très bien que nous sommes les premiers informés. Dans le cas de Médiapôle, notre présence est un pivot vital dans un quartier qui se transforme tout autant qu'il conserve ses attributs qui l'ont construit. Ainsi, notre clientèle est variée, composée de réguliers, fidèles habitués, tout autant que de nouveaux visages, nouvellement arrivés dans le quartier et heureux de découvrir une librairie généraliste près de chez eux. La force d'une librairie, c'est inévitablement le choix de ses livres, sa variété et la diversité qui donnent un caractère différent d'une librairie à l'autre, mais aussi beaucoup cette diversité. C'est l'identité particulière et unique des libraires qui forment un tissu organique dans la librairie. Nous sommes des passeurs de lecture, mais pour passer, il faut qu'il y ait quelque chose à passer. Les livres et quelqu'un pour recevoir la clientèle. Après, on passe avec passion, fantaisie et conviction. Vous écoutez Mike C. Vienno, Être un passeur, propos recueillis par Alexandre Mignot, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. vous animez à la radio avec Linda Dion, libraire de force. Parlez-nous de cette émission littéraire. C'est une émission qui a maintenant plus de 7 ans. Nous sommes rendus à plus de 380 émissions. Je suis fière de cette émission qui donne la parole à la lecture et à l'écriture 2 heures par semaine. La première partie de l'émission est souvent composée d'une entrevue de 45 minutes ou d'une heure. Cette formule nous permet d'aller au-delà de l'entrevue. Nous sommes dans une discussion, une causerie. La participation des chroniqueurs et chroniqueuses permet en plus d'apporter une richesse, puisqu'on y aborde différents styles, littérature jeunesse, écriture de soi, poésie, avec un ton personnel et impliqué. Linda et moi avons un style différent, avec des lectures distinctes et une approche différente qui se complète. Cela apporte une profondeur à l'émission. Libraire de force, c'est mettre les auteurs et autrices de l'avant avec leurs livres, mais aussi discuter d'écriture, de sujets, d'intentions d'écriture. Le fond et la forme se mélangeant, le sujet et l'objet ayant tout autant de valeur et d'importance. Libraire de force, c'est un lieu de rencontre, de discussion et d'exploration. Quel livre est associé à votre premier souvenir de lecture? Inévitablement, je l'ai mentionné dans mon discours de remerciement, la série du Club des 5 chez Hachette. Ma première passion de lecture romanesque, de l'action, des enfants que j'enviais, le développement de mon goût pour les polars. Tout était là pour me captiver. Il y avait aussi tous ces livres qui me renseignaient sur la vie, les encyclopédies variées, ces fameux livres de type « 1000 questions, 1000 réponses » que je dévorais et pour lesquels j'ai encore beaucoup d'intérêt lorsque je tombe sur un livre de culture générale aux nombreux sujets. Quelle importance la lecture a-t-elle dans votre vie? Incontournable, nécessaire, vital. J'ai tendance à dire que j'ai appris à lire en naissant. Pas si faux si je considère que mettre des livres entre les mains d'un enfant, c'est déjà le former à la lecture. Juste par le fait de tenir un livre, de regarder les images, dessins, photos ou mots, les lettres sont des images. J'ai beaucoup lu, ce qui demeure un fait, de tout, partout. Je ne peux passer à côté de certains clichés qui sont tellement vrais. La lecture est un refuge pour les jours gris, météorologiques et psychologiques. La lecture, c'est l'ouverture au monde et le moyen de voyager sur place. La lecture, c'est un ami qui nous suit partout. La lecture me permet de m'ouvrir aux autres et que les autres me reconnaissent, mais c'est aussi un espace de repli, un moment pour moi, afin de mieux rayonner vers les autres. Quel écrivain ou écrivaine aimeriez-vous que tout le monde découvre? Louis Gautier. Trop mal connu. Il navigue parfaitement entre l'humour et le sérieux. Il est à la rencontre de la contre-culture littéraire du Québec et des grandes œuvres marquantes. Louis Gautier a une langue impressionnante, un rythme difficile à égaler, tellement il varie et ses images sont fortes. Il faut lire Anna. BQ, pour saisir toute l'ampleur de son écriture et plonger dans le reste de ses romans. quel est votre dernier livre lu?
Je n'ai jamais dit papa.
De Louis-Philippe d'Alembert, chez Robert Laffont. Une lettre au père, émouvante, d'un fils qui ne l'a jamais connu. Il y a des phrases inoubliables dans un récit où l'auteur parle à un père qu'il reconstruit constamment par les souvenirs rapportés par les autres ou par de simples photos qu'il a pu conserver. Un message attendrissant et lucide qui touche et atteint les lecteurs qui n'auront pas connu leur père, qui a fui comme dans le roman ou qui est parti tragiquement trop tôt comme dans la vie. Et qui leur donne le droit de parler à celui qui n'est plus et qui, malgré tout, sera toujours. Quel est le livre que vous recommandez le plus souvent?
C'est relatif. Beaucoup de facteurs influencent la régularité de mes conseils ou leur fluctuation.
Conseiller un livre, c'est suggérer ses choix, influencé par ses préférences. Mais c'est surtout sentir les besoins de la clientèle, être à l'écoute du lecteur ou de la lectrice. Mais dans les dernières années, j'ai beaucoup conseillé « Sauvage » de Julia Kerninon chez Iconoclaste. Une histoire d'émancipation et d'apprentissage. « Le don » de Christina Gauthier-Landry chez La Peuplade. Parce que personne n'écrit comme elle. Parce qu'elle a son écriture. Le discours de Fabrice Caro chez Folio. Un roman où l'humour est intelligent et soutenu et qui permet de décrocher de notre quotidien. Les enfants du massacre de Giorgio Serbanenko chez Galmester. Un chef-d'œuvre d'un maître du polar qui décortique lentement les identités des personnages et qui offre un tableau social dur et violent. C'était Mike C. Vienno, Être un passeur. Propos recueillis par Alexandre Mignot, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les libraires.
La contagion du rire. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 juillet 2026 dans la presse. Marc Julien, un lecteur, demande « Pourquoi un fou rire peut-il devenir contagieux, même entre personnes qui ne se connaissent pas? » Le mécanisme en cause est mal compris, mais la contagion du rire sert probablement à tisser des liens sociaux entre membres d'un même groupe. L'humain est la seule espèce animale qui a un rire contagieux, explique Sophie Scott, psychologue à l'University College London, UCL, à Londres, qui a publié plusieurs études sur le sujet. C'est un moyen de communication émotionnelle puissant qui explique probablement l'établissement des communautés. La zone du cerveau qui est stimulée quand on entend des rires et qui, quand elle est stimulée, suscite des rires, est très sociale. C'est l'aire motrice supplémentaire, au sommet du crâne, dit Mme Scott. Elle joue un rôle important dans le langage, mais pas dans le choix des mots, plutôt dans l'utilisation des mots dans une phrase en fonction du contexte social. C'est une zone du cerveau très impliquée quand on a une conversation avec d'autres personnes, moins quand on parle par soi-même. Elle intervient quand on se demande « Qu'est-ce que cette personne veut savoir de moi ?» Mais, ajoute Sophie Scott, On ne sait pas encore différencier l'activation de l'aire motrice supplémentaire dans le langage et dans le rire contagieux. Le rire contagieux active probablement les mêmes mécanismes sociaux que la religion ou que l'exercice physique de groupe, selon Robin Dunbar, psychologue à l'Université d'Oxford et spécialiste de l'évolution qui a aussi étudié le rire contagieux. Si les gens rient à notre table au pub, nous rions. Mais si des gens à une autre table rient, nous sommes irrités du dérangement, dit M. Dunbar. Si on regarde une vidéo d'humoriste seul, on ne rit pas. Mais en groupe, on rit. C'est un rire éminemment social. Le rire est une composante presque universelle du lien entre parents et enfants par l'intermédiaire des chatouilles. C'est l'une des interactions les plus fréquentes avec les bébés. On les chatouille, ils rient. On rit, dit Mme Scott. Il est impossible de se chatouiller soi-même. D'autres animaux ont des relations sociales basées sur des comportements communs, comme le bâillement ou les gratouilles, selon Mme Scott. Il s'agit souvent de comportements qui stimulent l'expression d'endorphines, dit M. Dunbar. Les endorphines sont des analgésiques sécrétées par le cerveau. Elles sont parfois appelées « molécules du bonheur ». Système immunitaire. Quelles sont les questions de recherche prioritaires dans le domaine du rire contagieux? Nous devons mieux comprendre la cascade neuronale qui mène du fait d'entendre ou de voir un rire à l'expression du rire par nous-mêmes, explique Sophie Scott. Heureusement, poursuit-elle, c'est un domaine d'étude qui est très éthique, poursuit Mme Scott. Souvent, on ne peut pas soumettre les participants à une étude à des stimuli, mais dans le cas du rire, ce n'est pas un problème. Robin Dunbar estime qu'il faudrait déterminer les mécanismes en œuvre dans le rire contagieux dans différentes situations, quand on regarde un film comique ensemble ou quand on a un fou rire inexplicable avec une autre personne, par exemple. En savoir plus. Source: Journal of Epidemiology. 12% proportion des Japonais qui rient tous les jours. 16% proportion des Japonais qui rient moins d'une fois par mois. C'était « La contagion du rire », un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 juillet 2026 dans La Presse.